Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado de LNH.com. Nicolas Ducharme au micro, je vous parle en ce 4 mai avec aujourd'hui mes deux coéquipiers d'habitude. Le premier, Jeff Chaumont, on le rejoint à Montréal ou dans la grande région large. Ça va, Jeff?
Ça va. Longueuil.
Longueuil, aujourd'hui. Donc,
ouais, je me promène d'une rive à l'autre quand je ne suis pas sur la route. Donc aujourd'hui, journée commission. Les filles étudient sagement dans leur chambre. Et je parle dans un micro. Mon dimanche.
Et notre autre collègue, lui, on le rejoint du côté de Toronto, où il est déjà arrivé. Écoute, arrivé ce matin, Guillaume, et déjà, t'étais à l'aéroport, t'étais à la patinoire assez rapidement pour parler aux premiers joueurs des Maple Leafs qui ont été rendus disponibles. Comment ça s'est passé jusqu'à présent ce matin, Guillaume?
C'est une arrivée spectaculaire à Toronto. Je sais pas pour ceux qui connaissent l'aéroport Billy Bishop, qui est presque au centre-ville de Toronto.
C'est juste parce qu'il est sur une île. C'est juste ça qui complique la patente.
On est à environ une demi-heure de marche là, du centre-ville quand on atterrit là. Puis là, on est dimanche. Fait que je me dis, ça va être tranquille, pas trop de trafic. On va aller à l'aréna de pratique des Maple Leafs en arrivant. Et là, quand est venu le temps de commander mon taxi, je me suis rendu compte que ça me disait 1h15 pour me rendre à une distance de 10 km de l'aéroport.
C'est plus long que ton vol Montréal-Toronto, c'est ça?
Oui, exactement. Puis là, j'entendais les cloches à vaches et les cris et tout ça, et je me suis rendu compte que c'était le marathon de Toronto ce matin. Donc là, 1h15, ça me mettait en retard pour le début de la pratique. Donc, j'ai usé de mes méninges pour trouver une solution. Non, mais là, j'avais mes bagages. En plus, j'avais un sac à dos, j'avais mon bagage à main que j'ai toujours. Et il y a une station de Bixi au coin de la rue de l'aéroport. Donc, j'ai embarqué sur un Bixi, j'ai pédalé pour 5 km. Au début, c'était à côté. Les coureurs étaient dans la rue. Moi, j'étais sur le sentier de vélo. Et à un certain moment, on a fait dévier les coureurs.
Tu veux dire une piste cyclable? C'est comme ça qu'on appelle
ça. Piste cyclable. On a fait dévier les coureurs sur la piste cyclable. Alors là, il y avait moi sur mon Bixi avec mes bagages qui se promenaient en zigzag à travers les coureurs. C'était fantastique. J'ai passé... Il y avait des personnes qui encourageaient les coureurs avec des pancartes, puis ça applaudissait. Puis là, moi, je passais à travers ça.
Toi, tu ramassais les verres d'eau qui donnent sur le côté, là, dans le fond. Là.
Exactement.
Il me semble voir grand Guillaume sur son bicycle entre les coureurs. Mais, Guillaume, sois honnête, celui qui t'a appris maintenant ce moyen de transport, ça reste moi-même du côté de Washington. On se déplaçait aussi en Bixi avec toute ma grâce, mon élégance. Je faisais mes déplacements à Washington. C'est une série où les moyens de déplacement sains et responsables étaient fort présents. Le collègue de la presse canadienne, Daniel Rainbird, lui, l'oiseau qu'on surnomme, se déplaçait souvent avec une voiturette électrique, alors que nous, on choisissait le vélo. Mais je tiens juste à préciser, Rainbird et la voiturette électrique, c'est tout. Continue ton histoire.
J'arrivais à la fin, mais si jamais vous voyez des photos du marathon de Toronto où il y a un individu en Bixi en plein milieu, Bixi orange, parce que c'est commandité par Tangerine, c'était très, très voyant, disons. Ce sera moi. C'était moi.
Cherchez le hashtag Moron on a bike sur Instagram. Vous allez peut-être trouver.
Les partisans pensaient qu'ils trichaient.
Ouais, c'est ça. J'avais l'air du gars qui essayait d'avancer plus vite. Là, mais c'est une matinée mouvementée, disons que. Je suis arrivé à l'aréna de pratique avec. J'avais fait mon training. Là, un petit 5 km de vélo, ça. Ça part bien une journée.
Mais tu devais quand même avoir chaud dans le dos en arrivant.
Ouais, tu devais sentir dans le crâne.
Oui, mais là, il fait quand même il fait 12 là, dehors. Là. Okay. C'est nuageux. Ouais, fait que ça s'est bien passé. Là. À 28 degrés à Washington, ça a été...
C'était au centre d'entraînement des Maple Leafs, Guillaume?
C'était à Etobicoke.
Ouais, okay. C'est en banlieue.
Ouais. Ouais. Fait que t'as pédalé.
Habituellement, sans trafic, c'est 20 minutes, je pense.
Ouais, maximum. De Billy Bishop, maximum. Mais il y a toujours du trafic.
T'aurais été mieux d'atterrir à Pearson, quasiment?
Oui, ce matin, le collègue, on va le mentionner parce qu'on le mentionne à chaque podcast, mais le collègue Josh Clipperton m'a dit « C'est la seule journée dans l'année où Billy Bishop est désavantagé par rapport à Pearson. » Et je suis tombé sur celle-là. Donc,
bravo le touriste.
Oui, ça part bien le séjour. Je me demandais pourquoi les hôtels étaient si chers à Toronto. J'ai une partie de réponse.
Bon. Chers auditeurs, comme vous l'entendez, ben on enregistre, on est dimanche après-midi. Donc aujourd'hui, à l'émission, on va donner un aperçu de ce qui s'en vient pour la deuxième ronde des séries. Mais il y a une série qui se conclut ce soir, donc mais ça commence demain. On voulait être certain de pouvoir vous offrir. Écoutez, 3 sur 4 séries complètes, même 3,5 sur 4 parce qu'on va quand même parler de ce qui s'est passé dans la série entre les Stars et l'Avalanche. On se disait que c'est ça que vous alliez être un peu plus heureux avec ça que si on attendait de vous publier ça dimanche après-midi. On aurait pu enregistrer très tard ce soir, mais à un moment donné, là, Guillaume il est fatigué, il a fait son cardio là, aujourd'hui. Donc faut qu'il
ait ça. Puis demain c'est journée de match, le début de la deuxième ronde déjà, ouais. Fait que faut se préparer.
Pas de temps à perdre. Donc, ça va être ça aujourd'hui à l'émission et on va faire un bilan aussi de la saison des Canadiens. Les deux, vous étiez sur la série contre les Capitals. Donc, ce qui s'est passé et aussi ce que les joueurs avaient à dire par la suite. GF, le bilan de l'organisation de la direction, donc, est demain. Donc, tu vas rencontrer tout le monde dans l'organisation, l'état-major pour parler de cette saison-là. Donc,
Je voyagerai de Longueuil jusqu'au Centre Bell demain. Kent Hughes, Jeff Gorton parleront à 10h. Donc, comme tu le mentionnais, Nick, au moment où on se parle, on ne connaît pas encore le son de cloche de Hughes et Gorton, mais on peut déjà deviner que ça risque d'être positif.
Oui, oui.
Et on devrait entendre assez souvent qu'on a déjoué les plans, qu'on grandit déjà, que cette équipe-là est à l'avance probablement dans son plan de reconstruction. Donc, une thématique assez joyeuse à prévoir lundi du côté du CH.
On a battu le mix.
Oui.
C'est ce qu'on risque d'attendre. Et par la suite, tu t'envoles. Finalement, quelle série tu t'en vas couvrir dans l'Ouest?
Ça reste à déterminer. Soit Vegas, Edmonton ou soit Dallas, Saint-Louis. On essaie toujours de trouver aussi les intérêts francophones.
Il n'a pas dit Dallas, Winnipeg, as-tu remarqué?
Non, mais il n'y a pas de francophones chez les Jets. Donc, c'est plus difficile d'encercler Winnipeg. Zachary Bolduc, Mathieu Joseph, Jim Montgomery avec les Blues.
Alex Texier.
C'est quand même à dire que GF a ouvert la porte à aller à Winnipeg dans les derniers jours. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd parce que si GF y va, ça veut dire que moi, je vais peut-être l'éviter. Donc,
je ferme pas la porte. Je sais que je m'en vais dans l'Ouest et que je pars pas immédiatement. Donc, je reste aussi pour le bilan. Je laisse Toronto. Guillaume se plaît beaucoup à Toronto. Donc, on s'organise pour que ça crée le bonheur des deux.
Plus ou moins, mais c'est correct. Ça se fait bien.
Un bon P-Mill bacon.
Non, mais
tu sais,
c'est pas Montréal, c'est pas Boston, c'est Toronto. Mais ce soir, le collègue Clipperton va me faire découvrir les petits quartiers autour. Ça a l'air que c'est là qu'il y a l'action.
Attention.
C'est là qu'il y a l'action à Toronto, donc je vous en donnerai des nouvelles.
T'arrives au 5 à 7 et que le bon Clipperton porte un T-shirt gris. C'est signe que la soirée sera longue. Mais enchaînons.
Enchaînons, parce que le balado est déjà près de 10 minutes d'écouler dans ce balado-là et on n'a pas encore parlé réellement de hockey. Juste avant de commencer, chers auditeurs, je vous invite, si vous nous écoutez sur le site de lnh.com, on est disponible sur toutes les plateformes d'écoute qui peuvent à peu près exister. Faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Abonnez-vous, suivez-nous, comme ça vous êtes certain de ne jamais manquer un de nos balados qui, comme je vous dis maintenant en série, sont un peu n'importe où, n'importe quand on a deux minutes de libre. Les gars traînent leur micro dans leur valise, donc c'est notre horaire pour les prochaines semaines. Les gars, on va y aller. Écoutez, je pense que la logique a été respectée entre les Canadiens et les Capitals. Les trois, on voyait les Capitals remporter cette série-là, une équipe plus grosse, plus expérimentée et plus de profondeur surtout. Et ça a vraiment apparu dans ces 5 matchs-là au cours de la première ronde qui ont mené à la victoire des Capitals contre le Tricolore.
Oui, mais les Canadiens n'étaient pas si loin non plus, mais ça donne des pistes de solutions pour le futur. Tu vois où Kent Hughes, Jeff Gorton doivent s'améliorer. Je crois que c'est évident qu'un deuxième centre ferait grand bien au CH. Cette confrontation-là, Christian Dvorak ou Jake Evans ou Alex Newhook, peu importe, contre Pierre-Luc Dubois, les Caps avaient grandement l'avantage. C'était une série qui était très physique aussi. Les Capitals ont frappé tôt, rapidement, fort. Ils avaient ciblé clairement les Caden Goulet, Alex Carrier, Lane Hudson. À l'usure, cette victoire-là physique prenait avantage du côté des Caps. Mais en même temps, tu t'aperçois que, bon, ça reste une jeune équipe du côté du CH. C'était la plus jeune parmi les 16 formations dans le bal printanier. Puis ils ont quand même bien joué. Ils ne se sont pas fait déclasser match après match. Donc, il y a du positif aussi à ressortir de cette série-là. Mais à 5 contre 5, les Capitals dominaient. Même si on a vu quelques bons moments, là, surtout le troisième match, ça a été le match le plus endiablé. Cette victoire de 6-3 pour le premier match au Centre Bell, la soirée où il y a la fameuse escarmouche entre Josh Anderson, Tom Wilson et le grand juge de ligne de 6 pieds 7 pouces, Kyle Flemington, qui est un ancien coéquipier de Josh Anderson.
Quand même, hein, avec
et Josh
London.
Me disait avec le sourire qu'il n'avait pas eu le temps de lui en parler, mais qu'il avait grand sourire en apercevant le géant défenseur. Puis il disait que quand il jouait dans la Ligue junior de l'Ontario, il était dur, physique. Donc, il y avait deux gars pratiquement à surveiller de haut banc en Flemington et Tom Wilson.
Ça va avoir. Tu parles de Flemington, tu parles de Tom Wilson. Je trouve tellement que Tom Wilson a eu un impact dans cette série-là, de la manière qui a attiré toute l'attention sur lui, autant avec ses coups d'épaule, autant avec ses coups de bâton, peu importe, mais autant aussi avec les médias et tout ça. On n'a pas tant parlé d'Alex Ovechkin que ça dans cette série-là, alors qu'il aurait dû être au centre. C'est sûr que les Capitals ne le paradent pas non plus, là, Ovechkin, mais. Toute l'attention aurait dû être sur Alex Ovechkin, le record de but, tout ça. Puis finalement, c'est Tom Wilson qui a retenu l'attention. Puis c'est parfait quand tu entends ces éliminatoires comme ça.
Ben, c'est un joueur qui est taillé sur mesure pour les séries. Donc, c'est certain qu'il fallait l'avoir à l'œil du côté des Canadiens. Tu sais, Alex Ovechkin, on lui a parlé quelques fois. Mais il faut dire que tu sais, le premier match a marqué 2 buts, je crois. Mais...
Oui, dont le but gagnant en prolongation.
Son premier en carrière. Ça c'était quand même quelque chose.
Mais on ne peut pas dire que dans les autres matchs, au cinquième match, on l'a plus vu, mais il y a eu certaines rencontres où il était un peu plus effacé. Je pense au premier match au Centre Bell, le match numéro 3 de la série. On l'a vu une fois peut-être dans la rencontre, puis c'est quand il a marqué. c'est fidèle à son
match.
Ouais,
mais il avait aussi frappé Alexandre Carrier ce match-là.
Exact.
Résultat de blessure à une cheville pour Alexandre Carrier, ça l'a incommodé pour le reste de la série.
Mais maintenant, du côté des Capitals, je pense que c'est la preuve que on a parlé de leur reconstruction rapide ou en tout cas leur reset, leur mise à jour. Puis je pense que c'est ça, je pense que c'est la preuve que c'est plus seulement une équipe qui est centrée autour d'Alex Ovechkin. Tu sais, faut comprendre aussi que c'est une excellente saison, c'est un joueur qui vieillit, donc tu vois un peu les nouveaux visages. Tu sais, les Dylan Strom, c'est un jeune. Tu sais, je regardais ses stats, je pense que je revenais vers la fin de la saison, puis il est sur une lancée complètement sensationnelle en ce moment. On a vu Connor McMichael qui a été un poison tout au long de la série autour du filet. Il a eu beaucoup, beaucoup de chance. Pierre-Luc Dubois, peut-être moins offensivement, mais quand même, on a vu son apport au point de vue défensif et tout ça. Donc, c'est une équipe qui est bien équilibré, qui est en mesure de mettre l'interrupteur à on dès le début de la série. C'était un peu les seuls doutes qu'on avait par rapport aux Capitals, c'était est-ce qu'on va être en mesure de mettre la mauvaise fin de saison derrière puis repartir à 9 en série. Ils l'ont fait rapidement avec 2 victoires dans les premiers matchs, mais comme Jeff a dit, j'ai pas l'impression que le Canadien était si loin. Tu sais, ce quatrième match-là, on allait devant 2-1. Il reste quoi, 15 minutes au match? Si le Canadien tient bon, tu sais, c'est une série de 2-2. Puis là, on a peut-être un scénario complètement différent. Le match en prolongation, le premier match, tu sais, le Canadien s'est bien battu quand même pour une équipe qui Moi, je pensais réellement qu'il était au bout du rouleau. Ben, visiblement, il en restait un peu dans le réservoir. Puis ça a été, même si ça s'est terminé en 5, je pense que ça a été une bonne série qui a été serrée tout au long. Puis qu'on a vu deux équipes qui sont à des stades différents, mais qui se sont livrées une bonne lutte.
Mais Alex Ovechkin, Nick, tu disais, les Caps n'ont pas eu besoin de miser tant que ça sur leur capitaine, c'est vrai. Mais Ovechkin, je pense que le Ovechkin de 39 ans ressemble encore plus aux joueurs trop talentueux dans ta ligue de bière du mercredi soir qui donne 4-5 enjambées, qui reçoit la rondelle, décoche un tir, puis bang, est dedans.
On le connaît
Ovechkin
tous.
Est capable de contrôler, disons, là, son intensité à l'intérieur d'un match. Mais quand c'était le temps de frapper en début de série, les premiers matchs à Washington, il y avait une forte présence physique. Mais tu vois aussi qu'autour d'Ovechkin, Dylan Strome, Pierre-Luc Dubois, Tom Wilson, la mise en échec de Tom Wilson contre Alexandre Carrier dans le quatrième match, ça reste un tournant important de cette série-là. Puis même Anthony Beauvillier qui a joué du bon hockey au sein d'un premier trio, tellement qu'au retour d'Alexis Protas, bien Spencer Carberry a choisi de garder Protas au sein d'un quatrième trio plutôt que de le replacer à sa position habituelle. Puisque quand on dit que le CH a quand même tenu tête aux Caps, ça se voyait aussi dans les propos après l'élimination. Oui, c'est plus facile de sortir le violon, mais tu voyais que c'était senti, c'était sincère quand Tom Wilson disait que le tricolore est sur la bonne voie, qu'ils ont une bonne jeune équipe, qu'ils ont eu à batailler difficilement pour les éliminer. Puis il y a Spencer Carberry. Moi, quand j'écoute Carberry, tu peux te fermer les yeux puis tu vois pratiquement un John Cooper. Là, c'est un maître du violon. Mais il a parlé du CH pendant 2 minutes et demie environ pour dire à quel point le premier trio est talentueux, celui de Suzuki avec Caulfield, Slavkovski, à quel point Lane Hutson a changé la dynamique de cette équipe-là, et il a raison. Puis il mentionnait aussi, il faut quand même le préciser, cette série-là se termine sans le gardien numéro 1 du côté du CH, Samuel Montembeau, qui se déchire 2 muscles à l'aine, qui doit donner le flambeau à Jakub Dobesch. Puis même si Dobesch n'avait pas d'expérience en série, il s'est quand même battu pour garder son équipe dans le match. C'était pas parfait pour Jakub Dobesch, mais je pense notamment au 5e match à Washington où sans lui, les Caps pouvaient partir avec une avance de 3-4-5 buts, mais il gardait ça à 2-0. Donc, il permettait au CH d'encore rêver puis de s'accrocher.
On y a quand même cru en 3e. Dans ce match-là, Dobesch a fait de gros arrêts. Quand le Canadien a marqué en début de 3e période, on s'est dit, c'est une équipe de 3e période, c'est une équipe qui pousse fort, puis là, ils n'ont plus rien à perdre. Ouais. On cognait à la porte à plusieurs reprises, on frappait le poteau. Je pense que c'est une belle preuve de caractère quand même du Canadien. On n'en doutait pas vraiment avec la mentalité que Martin Saint-Louis a amené dans cette équipe-là, mais qui s'est battu jusqu'à la toute fin, même si il restait une période à cette série-là, puis il y avait 3 buts d'écart. On a senti l'équipe qui voulait revenir dans le match, revenir dans la série. Donc, c'est que du positif.
On ne tombera pas non plus dans la catégorie des excuses, parce que je suis convaincu que du côté des Capitals, il y a quelques joueurs qui cachent des bobos. Mais chez le CH, on parle quand même de Yoel Armia qui a joué avec une fracture à une main pendant plusieurs semaines. Alexandre Carrier qui était blessé à une cheville. Nick Suzuki disait, sans vouloir préciser, qu'il cachait plusieurs bobos. Brendan Gallagher était blessé aussi. Même chose pour Cole Caulfield. Caden Goulet est revenu rapidement de sa lacération. Elle n'était pas à 100%, il dit au maximum peut-être à 80%. Donc, tu commences à faire
Josh Anderson,
qui l'était de partout, si on veut. David Savard, qui avait mal au dos.
Patrick Laine, qui ne pouvait pas lancer.
Patrick Laine, fracture à deux doigts. Montembeau blessé. Donc, tu fais le tour du vestiaire, puis tu te dis, même Chantal Maccabée n'était pas à 100%. Chantal qui se remettait d'une opération, je crois, pour une hanche. Donc, c'était assez symptomatique de ce vestiaire-là. Il y avait des sacs de glace un peu partout.
Mais c'est ça qui arrive quand tu joues du hockey de série à partir du mois de février aussi. Là.
Ouais, mais
tu
c'est
les
ça.
Accumules, les bobos.
Ils ont eu apprécié le citron énormément. Mais juste d'atteindre les séries, de voir c'est quoi. T'sais, je parlais avec Juraj Slavkovski pour son blog qui signe chez nous sur le site d'LNH.com. Slavkovski disait, t'sais, ça a tellement une valeur importante. Il dit, maintenant, je sais sur quoi me préparer, encore plus à quoi m'attendre. Puis tu ne veux pas tomber là, dans un cycle négatif comme on voit à Buffalo. où c'était une dizaine d'années sans participer aux séries. Les Sénateurs d'Ottawa, Thomas Chabot a attendu 8 ans avant de jouer un premier match en série cette année. Donc, le jeune noyau, Slavkovski et compagnie, c'est à l'an 3 qu'il participe aux séries. Tu sais, les gars, je pense, Guillaume, des fois, on se donnait des coups de coude sur la passerelle de presse, là, mais la première unité d'avantage numérique, quand c'est Nick Suzuki, le plus vieux, à 25 ans, que tu as Caulfield à 24, Slavkovski, Hudson à 21 ans, puis Demidov à 19 ans, puis ça roulait, là. C'était du beau hockey. C'était pas juste on place 5 jeunes. C'est eux qui étaient le moteur offensif de l'équipe. Mais c'est quand même une image aussi du futur. Donc, il y a de quoi être positif après des années de vache maigre du côté de Montréal.
On justement, quand on arrivait en série, on se demandait quel joueur allait élever son jeu. Quand vous avez regardé ça, y en a-tu dans ces jeunes-là que tout de suite, ils ont prouvé... Tu viens de parler un peu, Jeff, là, mais tout de suite, ils ont prouvé que ça allait être des gamers dans les 4-5 prochaines années quand le Canadien devrait se mettre à être en séries éliminatoires de façon régulière.
Ben, moi, j'irais comme ça avec Lane Hudson. Ça a été quand même en dents de scie. Il y a eu des moins bons moments. Je sais que c'était au quatrième match qu'il a commis la petite bourde qui a permis aux Capitals de marquer dans un filet désert, puis s'en voulait beaucoup après le match. Mais au cinquième, il est revenu en force. Puis je pense que c'est ça qui fait sa force. Puis Martin Saint-Louis le soulignait à plusieurs reprises cette saison. Quand il connaît des bas, il ne s'appuie pas sur son sort. Il se relève, il travaille plus fort, puis il revient en force. Puis c'est quoi? C'est 5 points en 5 matchs dans cette série-là?
Oui,
5
passes.
Pour un défenseur qui, au début de l'année, on se disait « Ah, es-tu trop petit pour jouer dans la Ligue nationale? Es-tu trop petit pour connaître du succès offensivement? » Là, il l'a fait en saison, rendu en série. C'était « Ah, mais là, l'hockey de série, c'est plus exigeant, c'est plus physique, ça va peut-être être plus difficile pour Lane Hudson. » Finalement, trouve le moyen de contribuer à l'attaque. Encore réussi à éviter la majeure partie des coups d'épaule. S'est fait pincer à quelques occasions. Là, tu sais, c'était, je veux dire, contre une équipe
c'est
aussi lourde que les Capitals, ça allait arriver un jour ou l'autre. Mais tu sais, généralement, il est en mesure de bien faire le travail défensivement, puis de tirer son épingle du jeu dans la facette du jeu qu'il maîtrise le mieux, c'est-à-dire à l'attaque. Donc, pour moi, ça a été vraiment celui que, tu sais, on n'avait pas de doute par rapport à ce qu'elle allait donner, mais il a vraiment prouvé qu'il était rendu à ce niveau-là puis qu'il était capable aussi de livrer la marchandise en série.
Ouais, moi, j'aime la réponse de Guillaume. J'aurais aussi choisi, si j'avais un seul joueur, j'aurais choisi Lane Hudson. Sinon, Samuel Montembeau, qui, avant de se blesser, démontrait qu'il a l'étoffe d'un numéro 1, qui peut aussi être un très bon gardien en série. J'ai beaucoup aimé Montembeau. J'ai aimé aussi Nick Suzuki. C'était pas facile, par contre, pour Suzuki. Si tu lui demandes en série cette année, c'est comme va-t'en en avion. Une fois que tu es rendu à 1000 mètres, bon, ben, tu sautes de l'avion, mais tu n'as pas de parachute. Suzuki, il n'y avait personne autour de lui. Il n'y avait pas d'autres joueurs de centre pour l'aider.
Faut que tu sautes plus haut que 1000 mètres, par exemple.
Plus que 1000, peu importe. On comprend. C'était pour la symbolique,
juste
l'image.
Juste comprendre 1000 mètres, c'est deux bromons. Tu planeras pas longtemps, là.
Mais les confrontations, Spencer Carberry, aussitôt que les matchs avaient lieu du côté de Washington, pouvaient lui placer un Dubois d'impact, même un Nick Dowd qui était fatigant. Donc, le manque de profondeur a fait mal à Suzuki.
Ça se voit sur le temps de jeu, le 22-16 de temps de jeu.
Ah oui, exact. Donc, tu pressais énormément le citron. Juraj Slafkovský a eu des hauts, des bas. Il a été très, très bon dans le troisième match. Si tu peux revoir le Slafkovský du troisième match, ce serait intéressant. Il y a quelques présences où il avait tendance à se perdre un petit peu. Puis plus la série avançait, moi, plus j'aimais le jeu d'Ivan Demidov. Il ne faut pas oublier là, que c'est une adaptation excessivement rapide pour Demidov. Puis il jouait avec Evans et Newhook en fin de série. Là, on ne parle quand même pas de... Il n'y avait pas Wayne Gretzky et Mario Lemieux à sa gauche. Là, puis il réussissait quand même à bien se débrouiller. Donc c'est pour un jeune joueur de 19 ans, c'est positif.
C'était Gary Roberts qui était à la droite de Lemieux et Gretzky. Rendez-vous 87. Pas rendez-vous 87, mais Coupe
Canada 87. Mais le fameux but gagnant, c'est Dale Hawerchuk.
C'est Dale Hawerchuk?
Oui.
OK, bon, je t'ai plus certain.
Regretté Dale Hawerchuk.
Donc, j'allais juste dire, t'as pas... t'es pas encore ce joueur-là, ce type de joueur-là qui peut avoir ce type d'entourage-là, mais ça va peut-être venir. Vous avez rencontré les joueurs par la suite au bilan vendredi. Je dis vous. Vous étiez
les deux. Les deux. Et 84 autres journalistes, caméramans, preneurs de son, réalisateurs.
Il y avait beaucoup de visages. Beaucoup de visages qu'on n'a pas vus pendant la saison qui étaient là au bilan.
Il y a deux zoos annuellement. Il y a le tournoi de golf, puis il y a la journée des sacs de poubelle du Canadien.
C'est les deux pires journées de l'année. Ouais. Mais c'est pas...
C'est fait.
Non, mais écoutez, c'était quand même une journée plus agréable à couvrir que certaines autres qu'on a pu faire dans les dernières années. Je me souviens,
les dernières années, ça allait plus vite parce qu'on commençait à faire
les bilans. On était en mode bilan depuis le mois de mars.
Oui, c'est ça.
Fait qu'on avait passé la moitié de l'équipe, puis il restait 7-8 joueurs à la fin, à la journée de bilan. Mais là, cette année, les collègues avaient le couteau entre les dents. On a demandé à peu près 18 joueurs sur 23. Fait que ça a été occupé.
Ouais, puis qu'est-ce qu'on retient de cette journée-là? T'sais, le capitaine Gallagher compagnie disait que oui, c'est encourageant de voir autant de progrès en peu de temps. Pour les plus gros dossiers, si on veut ceux qui n'ont pas de contrat à la fin de l'année, Christian Dvorak, moi je lui ai posé la question, est-ce qu'il y a eu des négociations cette saison avec Kent Hughes? Est-ce qu'il y a eu moindrement des pourparlers? Puis Dvorak m'a répondu avec un sourire qu'il ne voulait pas y répondre. Donc pas besoin d'être un grand... Jojo Savard de ce monde pour lire entre les lignes. S'il ne veut pas y répondre, c'est parce qu'il n'y en a pas eu de discussion. Donc, Christian, lui, son bilan a été assez rapide. Après 2 minutes et demie, c'était terminé. Je sens qu'il y a plus ou moins... Même s'il y a eu une bonne saison de Dvorak, il faut l'admettre. Là, il y a eu surtout les deux, trois derniers mois.
Il a marqué des gros buts.
Il a marqué de gros buts. Mais je crois que l'émergence d'un Kapanen, d'un Owen Beck, le retour aussi de Jake Evans risque de lui fermer une porte. Il y a Yoel Armia, lui, qui a mentionné qu'il y avait des négociations. Les deux clans se parlent. Armia aimerait revenir. Si jamais il accepte une diminution salariale, je verrais dans les cartons un retour de Yoel Armia. Quand même un quatrième trio qui serait fiable avec Evans et Heinemann, le trio qu'on a vu pour plusieurs matchs cette saison. Sinon, Guillaume, qu'est-ce qu'il y a? Patrick Laine, je pense, Guillaume, tu lui as parlé.
Patrick Laine, c'était un bon point de presse. Moi, la phrase qui m'est restée en tête, c'est on essayait d'amener tranquillement la question de son rendement puis comment est-ce qu'il s'évaluait, parce qu'on s'entend que vers la fin de la saison, puis en séries éliminatoires, les deux matchs qu'il a joués, là, on a compris qu'il y avait une fracture au doigt, peut-être qu'il a subi dans le deuxième match. Là, fait que ça a peut-être affecté son jeu au deuxième match, mais généralement, tu sais, son engagement, sa volonté, disons que c'était un petit peu plus douteux en fin de saison. Puis là, on lui a demandé comment est-ce que tu évalues ta saison et tout ça. Puis il dit dans les circonstances, je connais beaucoup de gars qui n'auraient pas fait aussi bien que moi j'ai fait. Fait qu'à partir de là, on a comme compris que. Il n'a pas perdu de confiance. On sait que c'est un gars qui a quand même beaucoup de confiance en ses moyens. Ça m'a fait sourire quand même d'entendre ça. Mais pour lui, tu sais, en rétrospective, son objectif, c'était seulement de retrouver le plaisir de jouer cette année. Là, il nous a dit « j'étais à ça d'annoncer ma retraite avant d'être échangé au Canadien. J'avais eu les discussions avec mon agent, ça allait se passer ». Puis là, il y a eu la transaction, on a décidé de...
C'était quand même 14 millions à laisser sur la table, hein, si ça en allait à la retraite. Hein. 16?
Ouais.
Bon.
Mais il dit...
Ça te coupe ton épicerie, là, soudainement. Maxi, hein, tu lâches les épiceries fines, hein?
mais tu sais, il l'a répété quand même à quelques reprises qu'il y avait adoré chaque instant, même les moments les plus difficiles et tout ça, il avait retrouvé le plaisir de jouer. Donc, il dit pour moi, les statistiques, les points, tout le reste, c'est vraiment du bonus. Il dit ce que je voulais, c'était de retrouver le plaisir de jouer. Ça a été une mission accomplie. Là, la question qu'on peut se poser, c'est oui, c'est 20 buts. Patrick Laine, cette saison, c'est un joueur important sur l'avantage numérique. Mais là, on a vu en fin de saison, à la fin de la série, Demidov qui a pris la place de Laine quand il a été blessé, ça roulait assez bien sur la première vague. Donc, est-ce que le Canadien veut poursuivre l'aventure avec Patrick Laine, à qui il reste un an de contrat. Est-ce qu'on va le mettre dans un rôle sur la deuxième vague? Est-ce qu'on... Parce que tu sais, il y a toute la question de la culture puis des modèles ouais. que tu veux donner aux jeunes. T'sais, Patrick Laine, c'est pas nécessairement celui qui a toujours la pédale au plancher. Fait que, t'sais, c'est quand même une question qui se pose, mais en même temps, il dit qu'il a retrouvé le plaisir de jouer, qu'il aime ça être à Montréal, qu'il aime ça jouer sous pression dans ce marché-là. Ça coûte quoi au final de le garder pour une deuxième saison?
Non, mais ça va coûter le prix de le racheter. De toute façon, c'est ton intention
ouais,
de
c'est
le racheter.
Ça, exact.
Ouais.
À
un moment donné, aucune, ça va se balancer. Il n'y a aucune équipe qui va te tendre une perche, qui va te faire un cadeau en disant « Moi, je suis prêt à y aller pour un pari puis à le relancer. » On l'a vu l'été dernier. Les Blue Jackets ont payé un choix de deuxième tour pour le sortir de Columbus. Et il restait 2 ans à ce moment-là à son contrat, mais même pour une autre année, ça reste un dossier à regarder dans les prochaines semaines, ce que Kent Hughes et Jeff Gorton feront avec Patrick Laine. Un rachat, là, c'est près de 5 millions.
Ben c'est ça.
C'est 4,7 millions pour la saison 2025-2026 et 2,366 millions pour la suivante. Excuse. 3,9 pour la première, 2,3 pour la deuxième. Si on arrondit, là, 3,9 millions pour 2025-26 et 2,36 pour 26-27. Versus, tu endures son salaire une saison à 8,7. Donc, faites vos calculs. Là. Mais il ne faut pas qu'il devienne une distraction.
Non.
En fin de saison, avec sa blessure, on va lui donner une pause. Là. C'est un joueur blessé, peut rarement se faire pleinement justice. C'était le cas dans le cas de Laine. Mais il faut que l'attitude suive aussi.
Et on ne saura jamais ce que ça aurait donné avec un camp d'entraînement complet.
Il y a eu un paquet de malchance.
Il y a plusieurs choses qui font que si tu es, à mon avis, c'était Kent Hughes, c'était Jeff Gorton, tu te dis, ben écoute, on se réessaye pour une deuxième année, puis on verra ce qu'on verra. Puis au pégant, si ça ne fonctionne pas pendant la saison, je veux dire, pas le premier joueur ou entente mutuelle, on décide de se séparer en plein milieu de la saison. On te paye le reste de ton salaire, puis ça se termine comme ça. Là. Ça s'est déjà vu.
Il y a aussi la possibilité, tu sais, je pense que sur la liste d'épicerie des Canadiens, le fameux deuxième centre va être au sommet.
Oh, oui.
Donc là, tu te dis, si on trouve un deuxième centre qui est efficace, qui est bon défensivement, mais qui peut aussi produire, là, tu as un Laine. Tu sais, à 5 contre 5, ça pourrait peut-être l'aider à débloquer, tandis que cette année,
il a joué quand même beaucoup avec... Tu peux avoir Laine à gauche et des middle à
droite. C'est ça, il a joué quand même beaucoup avec Alex Newhook, qui a de la vitesse, on l'a répété souvent, mais c'est la finition puis la vision du jeu, c'est peut-être pas en plus dans son cas. Donc, je me dis, tu sais, un bon deuxième centre entre Laine et Demidov avec un Suzuki, Caulfield, Slavkovski sur ton premier trio, tu commences à avoir un top 6... qui est quand même dangereux, à condition que, c'est ça, Laine, question d'attitude, qui aille la pédale au plancher selon ses standards. Je pense que ça pourrait être une bonne formule pour le Canadien.
On va conclure là-dessus pour les Canadiens, mais vous êtes l'état-major du CH, vous allez poser la question demain, mais ce deuxième centre-là, comment tu vas le chercher, où tu vas le chercher, puis à quel point tu es prêt à sortir le portefeuille pour aller le chercher?
Ben, je pense pas qu'il faut que tu suives le modèle Maple Leaf de Toronto de l'époque où tu sautes sur un John Tavares, tu lui donnes un pont d'or puis tu viens détruire ton échelle salariale, même si Tavares donne encore de précieux services au Maple Leaf, probablement par voie de transaction.
Disons qu'il n'est pas le seul, la seule raison pourquoi les Maple Leafs n'ont pas été loin.
Non, mais c'est plus dans le sens, c'est il lui donnait 11 millions. Avant qu'Austin Matthews passe à la banque, avant que Mitch Marner passe à la banque, donc l'équilibre salarial devenait difficile. Il y avait un gros effet domino. Je pense que Hughes et Gorton ont assez de sagesse pour y aller probablement d'une transaction hockey. C'est peut-être un joueur qu'on ne voit pas venir. Je ne veux pas sortir des noms uniquement pour sortir des noms. Il y aura des candidats, puis surtout le CH a les choix en banque pour danser. 2 choix de premier tour cette saison, donc on verra ça va être qui, mais je suis pas mal persuadé, comme Guillaume le disait, que c'est au sommet de la priorité. Puis si Nick, je peux prendre 30 secondes, il faut quand même saluer la carrière de David Savard.
Ouais.
Pour moi, l'élimination du CH, le dernier match à Washington, les plus belles images vont rester celles de la fin Savard qui donne un gros câlin à chacun de ses coéquipiers qui passe les 26 dernières secondes sur la glace. Poignée de main avec Pierre-Luc Dubois. Après ça, Alex Ovechkin, Tom Wilson, Spencer Carberry qui vont de quelques mots pour souligner la carrière de plus de 800 matchs de David Savard dans la Ligue nationale. Son retour à Dorval, ça n'a pas tant été médiatisé, là, mais quand l'avion touche le sol, quand un commandant effectue son dernier vol et qu'il atterrit sur une piste, il y a toujours deux camions de pompiers qui attendent pour asperger l'avion. C'est le Water Salute en anglais. Puis ils ont fait la même chose pour David Savard à l'arrivée. Donc, Savard était un peu surpris de toute cette vague d'amour-là. C'est un gars qui est quand même réservé, qui ne cherche pas les réflecteurs. Mais je pense que ça lui a fait quand même du bien de savoir qu'il était aimé et respecté dans cette ligue.
Quand tu dis que le hockey, c'est une religion à Montréal, ça,
c'est, ouais, c'est assez exceptionnel.
Mais est-ce que tu te dois d'aller chercher un David Savard 2.0 dans cette brigade-là?
Ouais.
Parce qu'il manque ce vétéran-là, ouais, défensif qui fait bien les choses.
Et droitier.
Mais peu importe le côté, mais est-ce que Alexandre Carrier est en train de devenir ce défenseur-là?
Pas dans le même moule, mais c'est, si tu veux un modèle pour ton caractère au niveau de l'équipe, Alexandre Carrier ressemble à David Savard. Il va se sacrifier, il va bloquer des tirs, il va jouer en infériorité numérique, il va vraiment placer le logo au centre de tout. Donc, je pense que oui, Carrier peut saisir le flambeau. C'est un défenseur qui est plus jeune, qui a plusieurs années devant lui. Probablement que l'an prochain, on va voir un David Reinbacher ou un Logan Mailloux. Mais tu ne peux pas non plus encore avoir que des défenseurs en bas de 25 ans. Je ne serais pas surpris qu'on se lance à la recherche d'un défenseur d'expérience.
Non, puis moi, l'autre aspect que je vais ajouter, c'est qu'avec Savard, tu avais quand même du poids, un bon gabarit en défense.
Carrier plus mince. Là,
c'est ça, Carrier, c'est 5 pieds 11, 174 livres. Fait tu sais, l'année où le Canadien s'est rendu en finale, l'année de la pandémie, on avait le Big Three là, avec Shea Weber, Joel
Edmundson,
puis Ben Chiarot. Fait que pour moi, sans recréer ça, parce que là, ça demanderait beaucoup de travail du côté des Canadiens, mais au moins aller chercher un gars d'expérience avec du 16, qui est un peu plus robuste, qui est fiable défensivement, je pense que ça va être aussi un must. Après, juste en dessous du deuxième centre, je pense que ça va être l'autre priorité de Kent Hughes cet été.
Donc, oui, c'est ça, priorité de Kent Hughes. Et c'est là qu'on voit que cette équipe-là est en train de passer au prochain niveau de sa reconstruction-là. Ton noyau est en place, puis là, il faut que tu l'entoures.
Tu parles d'habiter
des pièces.
Yes. Ça, c'est quand même un bon signe.
Ouais, tu peux pas juste te dire, on a un Reinbacher qui s'en vient, on a un Owen Beck, tout ça. Je pense qu'on est rendu au point où ça, ces joueurs-là, ça va être un peu plus des joueurs de profondeur qu'on va amener tranquillement. Mais il faut avoir des vétérans qui entourent ton jeune noyau parce que là, l'an prochain, là, les attentes cette année, c'était le mix. On les a surpassés. L'an prochain, on ne peut pas descendre en bas des séries. Fait que tu ne peux pas te dire on va rentrer des jeunes puis on va continuer de progresser. Là, oui, ça se peut, c'est pas impossible, mais je pense que pour repartir où on a terminé, il faut aller chercher ces vétérans-là pour entourer le noyau.
Bon, allons-y. Parlons de ce qui s'en vient pour la deuxième ronde. On vient de parler des Capitals. Écoutez quoi, il y a 25 minutes quand même. Là. On a jasé. Mais parlons des Capitals qui affrontent les Hurricanes de la Caroline. Ça commence mardi. Cette saison, fiche de 2-2 pour Washington, 2-1-1 pour la Caroline. C'est deux équipes qui se sont affrontées en fin de saison en plus. Donc, on a eu le temps d'un peu s'ajuster, peut-être prendre des notes assurément. Donc, est-ce que ce que vous avez vu chez les Capitals, c'est assez pour vous convaincre qu'on est capable de battre une équipe qui a peut-être un petit peu plus d'expérience et surtout qui a un jeu défensif incroyable en séries éliminatoires que sont les Hurricanes? Puis j'ajoute à ça, il y a un joueur qu'on n'a pas parlé dans tout ce qu'on a fait comme bilan de la série contre les Canadiens, Logan Thompson. Est-ce que la performance de Logan Thompson vous donne encore plus confiance contre les Hurricanes qui, eux, leur gardien, ça dépend à quel moment Frederick Anderson se blesse. C'est pas mal toujours ça, la donne. Frederick Anderson qui a signé un nouveau contrat cette semaine, mais qui devrait peut-être être payé au match. Je pense que ça reviendrait un petit peu moins cher pour les Hurricanes.
Moi, j'ai de la misère à y aller avec les Capitals. tu sais, je disais, le Canadien était pas si loin dans cette série-là. Là, c'est la bonne vieille règle de trois, là. Fait que tu te dis, bon, les Hurricanes sont pas mal mieux outillés que le Canadien offensivement. Défensivement, c'est très, très solide. Le point d'interrogation, peut-être Kochetkov devant le filet. C'est quand même un gardien qui a fait ses preuves, qui est capable de faire le travail. Moi, je vois pas les Capitals réussir à poursuivre leur chemin. Je pense que les Hurricanes sont rendus à l'étape où on va passer au moins en finale de l'Est. Logan Thompson, moi, j'ai toujours mes réserves, Nick. On en a parlé au dernier podcast.
Ouais, c'est correct.
Il a fait de gros arrêts, mais le Canadien, avec un peu plus de talent et d'opportunisme, aurait réussi à percer le mur Thompson. Là, on a cogné à la porte. Je me souviens de séquences où Thompson est en train de nager dans son demi-cercle. T'sais, une bonne équipe comme les Hurricanes, je pense qu'ils vont être capables de régler ce problème-là, de résoudre l'énigme Thompson. Oui.
Je vais même ajouter là-dessus les Hurricanes, premier, je crois, cette saison pour les nombres de tirs, le différentiel de tirs plus et moins. Premier jusqu'à présent en première ronde des séries avec 36,6 tirs par match. Canadien, c'est 29. Tu parlais non seulement de la qualité des lancers, mais on tire énormément chez les Hurricanes.
Le troisième match,
ça mène tout ça. Là, donc...
C'est ça. Le troisième match, ça a été le seul où le Canadien a dépassé la marque des quoi? Des 30, 35? Je pense qu'on a tiré presque 40 fois, là, à moins que ma mémoire fasse défaut, ça se pourrait, mais je pense qu'on l'avait bien poivré à ce moment-là, puis on avait marqué quand même. 6 buts, 5 buts contre
40 tirs précisément, tu avais raison. 6 bon, buts.
C'est ça.
Peut-être un but dans un filet désert, par contre.
Je pense que oui, dans un filet désert.
Non. Avantage numérique, Newhook. Hein?
On dirait que ça fait.
Ça fait longtemps. Hein?
Ouais, mais c'était contre Lindgren, ça. Le dernier, c'était contre Lindgren.
C'était contre Lindgren,
après la blessure.
C'est ça, oui.
Mais non, c'est ça. Ça, c'est le match où le Canadien l'a le plus testé. On a marqué 5 fois. Donc, je me dis, les Hurricanes, s'ils ont cette tendance-là à tirer beaucoup, j'ai hâte de voir comment ils vont réussir à s'en sortir. Puis on en a parlé au dernier podcast, mais les Capitals, quand même, se débrouillent sans Martin Fairbairn, qui est leur meilleur joueur en infériorité numérique, le plus utilisé, en fait, le plus physique, bloque beaucoup de tirs aussi. Fait que, tu sais, à la longue, je pense que ça va peut-être venir affecter la brigade défensive des Capitals, qui est quand même connue certains moments difficiles là, contre les Canadiens. Ça a été une série de où ça penchait d'un côté puis de l'autre sans cesse. Là. Le momentum, comme disait Martin Saint-Louis, changeait de camp assez souvent. Donc, j'ai pas vu assez de constance dans le jeu des Capitals pour me dire qu'ils sont capables de passer à travers les Hurricanes.
Je trouve que c'est une série qui est difficile aussi peut-être de prédire parce que les Devils, c'est une équipe qui rentrait en série essoufflée avec le premier centre, Jack Hughes, qui était blessé. Donc, les Hurricanes ont réussi à survoler cette série-là, victoire en 5. Mais s'il y a un choc entre les Hurricanes et le CH, c'est au niveau de la profondeur. Je regardais les trios à l'attaque. T'as un Taylor Hall et un Logan Stankoven au sein d'un deuxième trio. T'as Jordan Staal, Seth Jarvis qui patine au sein d'un troisième trio. Puis Sébastien Aho avec Zvechnikov et Jackson Blake comme première unité. Zvechnikov qui a 5 buts en 5 matchs, qui connaît tout un début de série. Puis Jacob Slavin est probablement le meilleur défenseur à caractère défensif de la Ligue nationale. Donc,
on l'a vu aux 4 nations. Là.
On l'a vu aux 4 nations. Donc le point d'interrogation réside dans Anderson Kochetkov. Anderson va jouer combien de périodes avant de se blesser? Ça, c'est un classique du printemps ou en saison, peu importe le mois. Mais tu sais, je m'attends à une longue série, mais avant d'y aller de quelconque prédiction, je dois faire un mea culpa parce que mes prédictions finale de la Coupe Stanley, Lightning, Avalanche.
Moi, je pense qu'il y en a plusieurs dans
bonsoir, la visite. Hier, d'ailleurs, Madame Fanny, qui avait sa fin de semaine de fête, me regarder après l'élimination de l'Avalanche en me disant « Bravo pour tes prédictions. » Mais j'avais dit « Capitals en 5. » Donc, c'est le seul moment où je peux me péter bretelles parce que pour le reste, on parle d'une grande catastrophe.
Il faudrait que je retourne voir. J'avais dit quoi? Moi, j'avais Golden Knights.
Toi, t'avais pris 8 prédictions possibles. T'avais dit d'un côté, j'ai
ouais, c'est ça.
Attends une minute. Dallas, on va en reparler.
Je crois
que
les trois nous avions dit le Lightning contre l'Avalanche, mais pas avec le même gagnant.
Je te confirme que non. Parce que j'ai dit les Golden Knights. Je vais vous sortir ça. Laissez-moi deux secondes.
Toi, Guillaume, t'avais dit quoi pendant que Yannick cherche? Là?
Moi, j'avais dit Lightning Avalanche aussi. Mais écoutez, comme je t'ai dit hier...
Attends, je l'ai. En première ronde, parmi tout le monde à LNH.com, vous étiez les deux seuls avec Ottawa contre Toronto. C'est votre
échec.
Votre catastrophe. On avait tous, tout le monde, toute l'équipe avait le Lightning. On s'est fait piler dans la face par les Panthers, le Lightning et nous. Mais pour la finale, malheureusement, j'ai pas l'information. Mais je pense que j'avais Golden Knights et Lightning. Je crois que c'est ce que j'avais. Donc Golden Knights est encore là.
Sauve l'honneur, Nick.
C'est ça. Je sauve. Oui, on peut tirer. Et félicitations à Gabriel Duhamel qui avait les Stars, qui avait gardé.
Mais le jeune Gab s'y connaît en tout. Les casinos, la roulette. Gab, c'est quelqu'un qui a du talent par rapport à ça. Il n'a pas juste une fabuleuse jeune moustache.
Mais ne parie jamais sur le hockey. Il nous
Ben non.
Jamais sur le hockey.
Ça, il faut le préciser. Non.
Mais il faut y donner. Écoute, si Saint-Louis gagne ce soir, il va être 7-8, selon ce que je vois. Non, 6-8, il y avait le Lightning.
Donc, je suis loin du compte, je crois. J'avais les Kings, j'avais l'Avalanche, j'ai les Blues, donc les Blues sont dangereux. J'avais Ottawa et Tampa Bay, donc c'est une catastrophe complète. Mais je me console en disant, comme j'ai dit à JF hier, le Lightning a perdu contre les Panthers. Moi, je vois l'équipe qui est sortie de cette série-là en finale de la Coupe. Donc là, on met ça sur les Panthers. De l'autre côté, les Stars ont battu l'Avalanche. Je pense que les Stars s'en vont en finale de la Coupe aussi. Donc, si ça se produit, c'est quand même une mince consolation de se dire on avait identifié, tu sais, les bonnes séries pour les champions de la Coupe cette année. C'est juste
exact. Écoute, merci Guillaume de me réconforter.
Je suis allé faire l'épicerie ce matin, Guillaume, puis il y avait la dernière édition de Hockey Magazine dans laquelle j'avais fait mes prédictions. Puis ça, ben, comme je disais, j'ai fait ça quelques semaines avant le début des séries éliminatoires. J'avais Dallas, Floride. Donc, je veux dire... Dans le fond,
là,
j'aurais dû m'accrocher. Non, mais j'aurais dû m'accrocher à mon impression première. Mais non, j'ai fait le contraire. Regardez, ça donne ce que ça donne. Donc, justement, on va passer à la série Floride-Toronto. Mais avant ça, votre prédiction pour Washington, Caroline?
Mais moi, je vais dire le contraire de Guillaume. Je vais y aller pour Washington en 7. Même si je crois que les Hurricanes ont la meilleure équipe, je pense que les Caps peuvent l'emporter à la maison. Washington en 7.
Toi, tu avais dit à combien de matchs, Guillaume?
2. Je n'ai pas encore fait ma prédiction.
Ah, ben vas-y, excuse-moi pour sembler.
Je vais y aller avec Caroline en 6.
Caroline en 6. Je vais y aller avec Caroline en 7. Écoutez, imaginez ce club-là avec Mikko Rantanen, hein? Donc,
ouais, mais Mikko voulait pas être à Raleigh.
Le
Mikko des Hurricanes n'a pas été le Mikko des Stars.
Donc, Caroline en 7. Floride-Toronto maintenant, série qui commence mardi cette saison. Les Panthers qui ont gagné 3 de leurs 4 matchs contre les Maple Leafs. Je reviens un petit peu à la série contre Ottawa. On a peut-être joué un petit peu avec le feu. On a Toronto-way, soyons francs, parce que c'est souvent ce qui arrive à Toronto. On a énormément de misère à fermer une série. On le sait, c'était une fiche de 1 et 13, même à un certain point, dans l'ère Matthews. 1 et 14 même, parce qu'on a échappé 2 matchs. Donc, c'est 1 et 14, si je ne me trompe pas. En tout cas, il me semble dans l'ère Matthews, Nylander, tout ça. Les Sénateurs, est-ce que les Sénateurs vous ont laissé une bonne impression?
Ben quand même, les 2 des 3 premiers matchs, on parlait de défaite en prolongation pour les Sens. C'était une série qui se jouait à un but pratiquement tous les soirs. Un réveil probablement trop tardif, mais un réveil suffisant pour quand même faire peur un petit peu au Maple Leaf. Moi, je revois les images du 5e match où les gradins se vident quand les Sénateurs mènent. Quand je pense que c'est Tim Stützle qui venait de marquer. Donc, tu sens qu'à Toronto, tu n'es jamais trop loin de revivre une autre catastrophe. Brady Tkachuk n'était pas à 100%, a quand même connu de bonnes séries. Linus Ullmark a eu des hauts et des bas, mais techniquement, comme le CH, on croit que c'est une équipe qu'on devrait revoir en série année après année, mais il faut rester prudent, là, une progression, c'est jamais linéaire, on verra aussi pour les Sénateurs.
Oui, là aussi, il y a quelques éléments où tu dois terminer peut-être une défensive un peu plus solide. Quelques petits points, mais quand on va faire nos prédictions l'année prochaine, tout dépendant de ce qui va se passer cet été, ça va être difficile de ne pas mettre les Sénateurs dans le bain des séries éliminatoires, ça c'est sûr. Je pense pas qu'il y ait de retour en arrière vraiment possible pour cette équipe-là. La page a été tournée sur cette reconstruction-là. Bon,
Panthers, Maple Leaf.
Oui, ben c'est ça. Les Panthers n'ont pas perdu de temps avec les Lightning. Avec le Lightning, on les a brassés légalement et illégalement. On a vraiment utilisé tout ce qu'on pouvait pour brasser le Lightning. Est-ce qu'on peut arriver avec le même plan contre les Maple Leafs? Alors qu'on sait que les Maple Leafs ont quand même changé, somme toute, leur manière de jouer cette année. On est peut-être un peu moins offensif, mais on est beaucoup plus défensif, beaucoup plus physique. Je disais que les Maple Leafs, c'est la plus grosse équipe de la Ligue. Au niveau poids. Donc, est-ce que ce qu'on a fait contre le Lightning, on peut faire un copier-coller contre les Maple Leafs?
Ben moi, je vois pas comment les Panthers vont changer de formule face aux Maple Leafs. J'ai vu des images circuler qui dataient de l'an dernier, je crois. Puis c'est dans un match contre les Bruins de Boston. Paul Maurice qui... Oui. Je pense que ça, oui. Les Panthers perdent par quelques buts. Il dit là... Je répéterai pas, je traduirai pas, mais il dit là, vous allez vous mettre à frapper leurs défenseurs parce qu'il dit si ça s'en va en 7, ben, rendu au 7e match, ils vont avoir mal. Puis ils vont... Fait que je pense que c'est la mentalité des Panthers de, un peu à l'image des Capitals, on a parlé dans le dernier podcast, d'investir pour la série, dans le sens
placer les pions, là.
Tape au début, tu fais mal, puis rendu au 5-6-7, ben les joueurs adverses, peut-être ça leur tente moins d'aller dans le coin avec toi puis d'aller chercher les rondelles. Ce matin, je parlais avec Simon Benoît, justement, qui est celui qui a donné le plus de mises en échec chez les Maple Leafs cette saison. Il disait, tu sais, je pense qu'il va falloir que tout le monde, même ceux qui sont pas habitués à donner des coups d'épaule, va falloir que tout le monde contribue parce que sinon, c'est une équipe, les Panthers, qui peut prendre avantage de ça puis vraiment prendre le dessus à la longue, là, plus la série va avancer. Donc, je vois pas comment les Panthers vont changer une formule gagnante. Ça a fonctionné pour atteindre la finale il y a 2 ans, pour gagner la Coupe Stanley l'an dernier. Puis là, cette année, ben c'est une équipe à surveiller aussi. Puis quand tu regardes la liste des blessures chez le Lightning à la fin de cette série-là, c'était plutôt exhaustif. Fait que ça donne pas vraiment le goût. C'est ça, ça donne pas vraiment le goût d'aller jouer contre cette équipe-là des Panthers, disons. Je vais juste ajouter parce que ça vient je l'ai écrit ce matin, mais partant de 60 minutes, Sénateur et Panthers sont pratiquement nez à nez au niveau des mises en échec distribuées. Fait que les Maple Leafs ont quand même eu un avant-goût en première ronde de ce qui les attend contre les Panthers. Puis ils ont réussi à s'en tirer peut-être contre une équipe avec un peu moins de profondeur, mais tout de même, au niveau du jeu physique, savent à quoi s'attendre. Anthony Stolarz parlait ce matin d'un petit échauffement avant de passer au deuxième tour. Il dit, les Sénateurs nous ont donné l'occasion d'avoir un petit échauffement avant d'arriver au deuxième tour. Les collègues ont trouvé ça assez drôle pour une équipe qui était à 5 minutes d'une prolongation dans le match 6. C'est un retour à Toronto pour un match 7. Mais c'est ça. Du côté des Maple Leafs, on l'a vécu et on est prêt à ça pour les Panthers.
Mais quand on analysait Lightning-Panthers, on redoutait l'énergie des Panthers en se disant ils ont vécu 2 finales de la Coupe Stanley. Est-ce qu'ils vont avoir assez d'essence dans le réservoir? Mais il faut croire que eux, s'ils ont choisi de se reposer, ils l'ont fait dans les dernières semaines. Si on voyait du moins bon hockey, du hockey moins inspiré pour l'équipe de Paul Maurice en fin de saison, au premier tour là, contre le Lightning, c'était assez impressionnant. Je regarde la liste des marqueurs chez les Panthers. Ils ont 6 joueurs avec 1 point par match, 5 points et plus. Reinhardt, Barkov, Bennett, Tkachuk, Luostarinen, Lundell. Puis 7e, Brad Marchand, qui a 4 passes en 5 matchs. Donc, c'est une attaque qui est très variée. Ils peuvent venir des 3 premiers trios facilement. Mais le revers de la médaille, les Maple Leafs, avec l'empreinte de Craig Berube, il faut quand même reconnaître qu'il joue mieux défensivement. C'est une équipe qui peut maintenant gagner 2-1, 3-2. Oui, il y a toujours les quatre canons offensifs, là, Matthews, Nylander, Marner et Tavares. Mais à la ligne bleue, on a ajouté du poids. Brandon Carlo, qui est un gros défenseur, qui peut bien jouer justement dans des matchs à haute tension.
Chris Tanev,
Simon Benoit, avec qui Guillaume parlait. Le Benoit est grand et gros. Mais je crois qu'il y a trop de talent du côté des Panthers. L'équilibre est meilleur du côté de la Floride. Puis tu rajoutes un Seth Jones qui est quand même un bon patineur, un droitier qui peut manger de grosses minutes. La commande est très lourde pour les Maple Leafs.
Moi, il y a deux facteurs X chez les Maple Leafs qui vont influencer la durée de cette série-là. Matthew Nice,
ouais,
qui continue de progresser, qui gagne en expérience en série, et Max Pacioretty. Parce que là, si on a le Pacioretty qui reste en santé, puis qui livre ce qu'il a déjà été capable de livrer, son lancer, mais s'il peut aller un peu devant le filet, s'il peut laisser créer de l'espace pour Tavares et Nylander, avec qui il évolue sur le deuxième trio, il y a possibilité. Mais là, quand je compare au niveau de l'expérience, on est tellement aux antipodes, on est tellement loin. C'est les Panthers, on l'a dit, deux finales consécutives de la Coupe Stanley. On a des joueurs qui ont livré la marchandise. T'ajoutes un Brad Marchand qui a eu du plaisir à éliminer les Maple Leafs aussi dans les dernières années à quelques reprises. Il était pas là, quoi, c'était en 2013, 2000. Étais-tu là? Oui, il était là.
Il était là pas plus tard que l'an dernier.
Oui, c'est ça, avec les Bruins, là, c'est ça. Avec les Bruins, puis ça, il l'a fait à quelques occasions. T'as même Bobrovsky contre Stolarz. Stolarz était avec les Panthers l'année dernière. Les Panthers le connaissent très bien, le gardien adverse, connaissent ses faiblesses, savent comment le battre. 1+1+1+1+1. Tu rajoutes Paul Maurice, à mon avis, qui est un grand motivateur. Tu parlais de son discours enflammé. Il manquait une couple de bip dans la manière que tu l'as résumé, Guillaume, là, mais c'était vraiment comme...
Il y avait beaucoup de mots en F.
Vous voulez vous mettre à faire des jeux, là. Je pense qu'on perd 3-1, puis vous voulez vous mettre à faire des jeux, vous allez leur faire payer de prix. En français, ça serait un peu ça. J'ajoute tout ça, puis je vois pas comment les Maple Leafs peuvent passer à travers cette série.
On n'a même pas parlé d'Alexander Barkov, qui, non, à mon humble avis, fait partie des 5 meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Barkov, s'il a la mission d'être l'ombrage d'Austin Matthews, il peut le faire à merveille. Donc, moi aussi, je pense que les Panthers, s'il faut se mouiller, je vais dire, moi, Panthers en 6.
Panthers en 6. Puis toi, Guillaume?
J'ai le goût d'y aller Panthers en 5. Mais
c'est fou.
Je pense que je vais y aller. Je veux pas faire comme. Je veux pas avoir la même prédiction que GF. Là, ça n'a pas fonctionné au dernière ronde. Fait que je pense que je vais y aller en 5. Juste parce que.
Juste pour les voir perdre du côté de Toronto. Ça, c'est ce que Guillaume
dit. Ouais. Mais je voulais juste rajouter aussi ce matin, je voyais quelque chose passer. Là, ça, les partisans des Maple Leafs sont très encouragés par le fait qu'il y a 3 gars qui jouent avec les Panthers qui sont désormais avec les Maple Leafs. Donc, ils se disent, on a l'expérience. Puis là, il y a quelqu'un qui a répondu, je pense que c'était sur X, il dit, si vous pensez que vous avez de l'expérience avec 3 joueurs, attendez de voir le line-up des Panthers qui étaient là en finale l'an dernier, la liste des joueurs qui étaient là en finale. Fait qu'on essaie de trouver des petits points pour se rassurer là, du côté de Toronto, mais j'ai l'impression que ça va être une machine difficile à arrêter. Ça,
les 3 joueurs, on parle d'Oliver Ekman-Larsen,
Steven Lawrence
et Anthony.
Et le gardien.
Stolarz.
Donc,
mais Lawrence, qui est quand même le deuxième joueur qui a frappé le plus cette saison, c'est quand même. Ça amène un autre aspect, au moins au Maple Leafs.
Lawrence, c'est un bon aussi pour les médias. Quand tu as une question sur un sujet X, Y, Z, il était toujours dans le vestiaire du côté des Panthers. C'était pas lui qui avait le plus grand impact. Mais c'est un bon.
C'est
faut pas le perdre.
C'est le type de joueur que tu offres aux médias quand ça se met à aller un petit peu moins bien là, dans un off-day. Il y a certains joueurs qui sont attitrés. Ça en est un. Donc, Guillaume en 6, nous deux, JF et moi en 5.
Non, en 5.
Guillaume
cinq,
en 5, JF et moi en 6. Mais ça va être bon. Mais c'est fou de voir à quel point en deux semaines notre avis des Panthers peut changer. Hein? Soudainement, ouais. C'est la 7e merveille du monde. Ils sont pas fatigués puis tout va aller. On se transporte dans l'Ouest à un des deux endroits où JF va peut-être se rendre. Série Golden Knights Oilers cette saison. 2 victoires, 2 défaites pour les deux équipes. Les Oilers aussi, hein, parlant d'équipes qu'on avait décidé d'enterrer rapidement. Les Oilers semblaient, honnêtement, enterrés après 2 matchs contre les Kings de Los Angeles. 2 défaites gênantes où on a donné 12 buts. Puis tout a changé avec l'arrivée de Calvin Pickard et le monstre à deux têtes, McDavid et Drysdale qui se sont levés. Votre avis, comment vous évaluez ce que les Oilers peuvent offrir en séries éliminatoires après une série de ce type-là?
Écoute, c'est aussi simple que si le monstre à deux têtes se fâche, tout est possible pour les Oilers. McDavid, Draisaitl, c'est quoi? C'est 11 points pour McDavid en 6 matchs, 10 points pour Leon Draisaitl en 6 matchs.
Leur moyenne habituelle en série, là.
Oui, mais tu demandais aux Oilers de marquer 5-6 buts par rencontre pour espérer gagner. Là, ton gardien numéro 1, c'est Calvin Pickard. Support contre les Golden Knights qui ont une équipe très bien équilibrée. Adam Hill aussi devant le filet. La ligne bleue des Golden Knights, je pense qu'on en avait déjà parlé, là, mais chez Theodore, Alex Pietrangelo, Noah Hanifin, peut-être la ligne bleue la plus talentueuse de la Ligue nationale. Le top 6 des Golden Knights, c'est très, très, très solide. T'ajoutes Jack Eichel à l'attaque, Mark Stone.
Je ne sais pas si c'est la meilleure, mais c'est peut-être la plus efficace.
Oui, oui.
La plus solide, la plus...
Le facteur X, Oliver Ekman Larson, mais Mathias Ekholm pourrait peut-être revenir au jeu du côté des Oilers. Ça, ils en auraient grandement besoin. Mais malgré tout, écoute, si pour gagner, McDavid, Draisaitl auront besoin d'être miraculeux, ce qui est jamais impossible, mais je crois quand même que la logique parlerait pour une victoire des Golden Knights.
Les performances du Wild contre les Golden Knights, est-ce que ça vous a juste refroidi un petit peu contre Vegas?
Ben, le Wild ouais. Avec Kirill Kaprizov en santé, avec Eriksson Ek.
C'est un club qui se battait pour le sommet de la centrale à un moment donné.
Oui, exact. Ouais. Donc, c'est pas non plus des pieds de céleri là, comme rivaux en partant. Je trouve que c'est difficile de prédire quoi que ce soit avec les Oilers. Je trouve pas qu'ils ont connu une grande série contre les Kings. Ils ont joué avec le feu sur un moyen temps, mais ils ont réussi à pas trop se brûler.
Cette série-là, c'est joué au match 4 quand les Kings ont échappé une avance de 2 buts en 3e période. Mm-hmm. Si tu gagnes ce match-là, c'est 3-1. Les Oilers sont dans les câbles. Là, tu leur as redonné vie. Ça a fait 2-2 dans la série. Puis après ça, je veux dire, quand tu as un gardien qui fait les arrêts puis un McDavid, Draisaitl qui fonctionne, c'est dangereux, mais je vois mal comment on peut venir à bout de la profondeur des Golden Knights. Je pense que c'est une équipe qui est mieux équilibrée, tout simplement, que les Oilers. Puis dans les filets, tu sais, Pickard fait la job, là, mais on s'entend qu'à un moment donné, ça risque de casser aussi. Là, fait que c'est un autre point d'interrogation qui me donne envie d'aller du côté des Golden Knights.
Jake Walman a quand même eu un très bon premier tour contre les Kings, là. Plus 8 avec un temps de jeu de 21 minutes par match. Donc, une chance que les Oilers avaient Walman en l'absence de Mathias Ekholm. Mais bon, j'ai hâte de voir. Ça se pourrait que je voyage du côté d'Edmonton également pour ce deuxième tour-là.
Tu t'ennuyais de cette ville-là, je pense.
Absolument. Je m'ennuyais de la Bamba et c'est quoi, le Campio, Guillaume?
Ouais, le Campio.
Allez dire salut.
Aller voir Wes.
Wes. Oui. Notre serveur gaspésien qui se retrouve maintenant à Edmonton.
Mais vous parlez, j'ai juste l'impression d'entendre les mêmes arguments qu'on aurait eu il y a 2 ans quand les deux équipes se sont affrontées. Puis ça s'était fini. Golden Knights, trop solide pour le monstre à deux têtes. Victoire en 6 matchs. Est-ce que ça ressemble à ça, votre prédiction? Ou...
Je ne vais pas en premier. C'est au tour à Nick d'y aller en premier.
Oui, je vais exactement dire ce que je viens de dire. Golden Knights en 6.
Yo!
Je prends une autre chance. Je vais Golden Knights en 5.
La raison pourquoi je ne peux pas les mettre en 5, c'est que il va y avoir minimum deux matchs où McDavid et Draisaitl vont se lever. Oui, mais c'est ça. Ça le 2 ans, ça avait fini en 6, puis j'aime ça. Mais je veux dire, il n'y a pas. Ça va arriver. Là, le but, là, c'est que ça n'arrive pas pendant 4 matchs. Puis ça, je pense que les Golden Knights sont capables de les stopper pendant 4 matchs.
Écoute, ça joue. Je vais aller Golden Knights en 6, mais j'ai de la misère à voir les Oilers perdre à la maison. Mais oui, Golden Knights en 6.
Adapte-toi, puis moi, GF, on a tous les mêmes prédictions, puis ça m'inquiète énormément. Dernière série, ben là, comme on vous dit, là, on est dimanche après-midi, là, donc on ne pourra pas vous donner un aperçu complet, mais il faut revenir.
Les Stars contre qui de droit?
Les Jets ou les Blues. Donc, faut pas sous-estimer les Jets ou les Blues quand même, parce que c'était la meilleure équipe en saison, et l'autre, la meilleure équipe après dans la dernière portion de la saison, là, après la confrontation des quatre nations. Donc, c'est pas étonnant que ces deux équipes-là, ça se rende en 7 matchs. Ce qui est peut-être pas étonnant, malheureusement aussi, c'est les performances de Connor et LeBoc jusqu'à présent dans la série. S'il a l'intention de se lever, c'est ce soir pour ce 7e match. Mais les Jets, peu importe si on l'emporte, si on réussit à aller affronter les Stars en 2e round, on est magané, plusieurs blessés, Mark Scheifele qui joue pas ce soir aussi. Tandis que, il y a Nick Ehlers aussi qui est blessé. Tandis que les Blues, je pense que le duel pour les Stars va peut-être être plus facile si c'est les Jets que si c'est les Blues.
Ben, si jamais ça devait être les Jets, ça s'ouvrirait du côté de Winnipeg, donc perdrait l'avantage de la glace. Mais peu importe, les Stars qui ont éliminé l'Avalanche sans Miro Heiskanen, sans Jason Robertson, Heiskanen devrait revenir au jeu pour le 2e tour. Robertson pourrait également.
Robertson patine depuis mercredi.
Ouais, patine. Écoute, Mikko Rantanen qui gagne pratiquement lui seul le 7e match avec 3 buts contre son ancienne équipe. C'était assez spectaculaire, merci. Il y a beaucoup, beaucoup de talent du côté des Stars. C'est une équipe qui cogne à la porte depuis plusieurs années. Moi, que ce soit Winnipeg, que ce soit Saint-Louis, je choisis les Stars de Dallas.
Je vais vous poser une question. Est-ce que l'Avalanche a choqué? Est-ce que c'est la définition même d'un choke, ce qui s'est passé hier et ce qui s'est passé dans cette série-là? Où...
Quand tu perds en 7, c'est difficile.
Mais quand tu perds en 7 contre une équipe qui manque ses 2 meilleurs joueurs?
Ouais,
et
mais...
quand tu perds en 7 avec une avance de 2-0
ouais.
En 3e période
je déteste
du match
le mot « choqué ». Mais écoute, c'est une équipe qui avait beaucoup de nouveaux joueurs. T'essayais d'ajouter. Oui, ils ont fait de bonnes acquisitions. On croyait que c'était de bonnes acquisitions. Charlie Coy, Brock Nelson, Ryan Lindgren et compagnie. Martin Nekac, qui est un résultat de l'échange de Rantanen. Mais je pense qu'ils se sont un petit peu perdus avec trop de nouveaux joueurs. Ryan Lindgren, en 3e période, c'était très, très difficile. Puis Ryan Lindgren, c'était difficile aussi avec les Rangers. Écoute, c'est un effondrement. J'aime pas le mot, mais quand tu mènes 2-0, c'est vrai que c'est
étouffé violemment.
Ouais, c'est... tu recraches ton verre d'eau assez vite.
Le bout de steak qui est pris dans la gorge, il est resté pris là, finalement. Mais
la formule des séries, là, je trouve que... T'sais, on en a déjà parlé, ouais. Mais je trouvais ça plate de voir ce choc-là au premier tour. Colorado-Dallas, puis même chose pour le duel floridien.
Et je me souviens plus qui a dit ça, je pense du côté des Stars, mais il a dit quelque chose qui ressemblait à « je sais pas s'il y a une équipe qui est meilleure que l'Avalanche. S'il reste une équipe meilleure que l'Avalanche dans le portrait des séries. » Je paraphrase, là, mais ça voulait dire ça. Fait que de voir ces deux équipes-là s'affronter au premier tour, on s'entend que c'était peut-être une finale de l'Ouest avant le temps. Ça donnait un bon spectacle. Par contre, le spectacle, on l'a eu en première ronde au lieu de la finale de l'Ouest, mais c'est certain que ça... C'est l'Avalanche ne devrait pas être éliminée après un tour. Là, on s'entend.
Mais il reste que quand on regarde le classement final, si on rajoute un point ou deux, peu importe, aux Kings, une victoire de plus aux Kings, on aurait eu Stars contre Avalanche en première ronde, même dans le vieux format 1-8.
Non, c'est 2, ça que 7, je regardais. 3-6, on aurait eu Dallas, Edmonton, 4-5, Los Angeles, Colorado. Il y a de grosses pointures dans l'association de l'Ouest, puis c'est là que tu le réalises.
Oui, c'est ça. Puis Panthers, on aurait-tu... Est-ce que... Non, ça aurait été Lightning contre Sénateur. Ben, il y a Panthers, Hurricanes en première ronde. Encore là, on est dans le même refrain. De...
Ouais, c'est
le propre de la parité qu'il y a dans cette ligue-là, là, ouais. Où on a une ligue à 32 équipes, il y en a 16 qui font les séries, puis il y a énormément de parité. On est dans cette réalité-là où il y a des bons clubs. Ça rajoute tellement d'importance à la saison. Puis encore là, les Jets qui ont fini premier dans la ligue affrontent le meilleur club en fin de saison. T'as un duel là que entre deux équipes qui visiblement ont ce qu'il faut pour gagner la Coupe Stanley, mais faut que tu passes à travers la première. Comment il disait Marc Bergevin? Qu'est-ce qu'il disait?
T'as des joueurs qui t'amènent en série, puis t'en as d'autres qui te permettent de gagner en série.
Une fois en série, tout peut arriver.
Merci Guillaume, merci, c'est à celle-là que je pensais.
Mais tu sais, même les gars, je regarde, là, c'est difficile de dire qui aurait fini 4, 5, 3, 6. Les Hurricanes ont fini l'année 3-6-1. Les Panthers ont fini l'année 3-6-1 parce qu'il n'y avait pas d'enjeu. Ils savaient qu'ils terminaient exactement dans cette case-là.
Mm-hmm.
Tandis que si tu y vas de la vieille formule des séries, ben peut-être que les Panthers auraient appuyé un petit peu plus sur l'accélérateur. Question de ne pas avoir les Hurricanes d'impact au premier tour. Mais bon,
t'as raison, t'as pas tort là-dessus.
On spécule,
puis on fera pas le. C'est pas à nous de créer les règlements.
Non, c'est ça. Ça va pas se décider sur le.
Gary Bettman dit tout le temps que c'est intéressant que le premier tour des séries, il veut pas non plus toucher au format. Puis il faut dire que c'est le cas. Le premier tour des séries, année après année, t'as une, deux, trois surprises, mais t'as de très, très bonnes confrontations en partant.
Puis la réalité est que les clubs s'affrontent si peu maintenant en saison, avec une ligue à 32 équipes, toujours aussi de matchs, que si tu veux créer des rivalités, ben ça va se faire en série. Les Oilers, les Kings, c'était quoi? Mm-hmm. C'était la quatrième année de fil.
Quatrième.
Ça doit commencer à sailler, pas pire. Là. Les Maple Leafs qui doivent tout le temps affronter le Lightning, les Bruins, ben là, les Bruins, ça devrait être pas mal moins le cas à partir de maintenant. Les Panthers, les rivalités maintenant se créent en série à cause de ce format-là. Donc, il y a un autre côté de la médaille qui est quand même...
Non, il y a du bon côté aussi.
C'est ça. Donc, GF, tu disais, peu importe qui va passer, c'est les Stars qui vont continuer leur chemin par la suite.
Stars. Ouais. Ça sert à rien de dire à combien de matchs. Au moment où on enregistre, on connaît pas les rivaux, mais les Stars.
Mais même avis, les Stars, peu importe. Puis j'ai l'impression, je suis d'accord avec toi, Nick, quand tu dis que les Blues leur donneraient une meilleure confrontation que les Jets. Je pense que c'est une équipe qui a le vent dans les voiles. S'ils peuvent réussir à aller chercher le septième match ce soir, ça va être une série très intéressante. Je veux juste souligner aussi, on parle beaucoup de Rantanen, mais Wyatt Johnston qui a marqué encore le but gagnant. Tu sais, Rantanen a 3 buts, mais le but gagnant, c'est Wyatt Johnston en avantage numérique. Ce gars-là, on dirait qu'il vieillit pas. Là. Il a 21 ans. On dirait qu'à chaque fois qu'on parle de lui, il a toujours 21 ans. Là. Mais ça fait tellement longtemps qu'il est dans... Tu sais, c'est sa troisième saison déjà. L'an dernier, 16 points, 10 buts en 19 matchs de série. Cette année, déjà à 7 points en 7 matchs, 3 buts, dont celui qui a clinché pour parler en français, pour prendre une bonne expression française. La série, tu sais, c'est un joueur qui est tellement, tellement clutch, tellement bon offensivement. C'est impressionnant quand même de le voir aller en série. Là. C'est un gars de 6 pieds 1, 185 livres. Là. C'est pas un monstre, c'est pas un Tom Wilson que tu te dis, bon, c'est normal qu'il domine, mais il trouve des moyens de produire malgré le jeu physique et tout ça. Là. C'est quand même très, très impressionnant de le voir aller.
23e choix du repêchage 2021. Tu sais, quand on dit que les Stars... Oui, tu as l'arrivée d'un Rantanen. Oui, ils sont allés chercher des joueurs, Matt Duchesne et tout ça. Mais c'est par le repêchage que cette équipe s'est bâtie.
Ils peuvent remercier la pandémie parce que c'est Johnston a quand même glissé parce que
la Ligue junior d'Ontario jouait pas.
Match.
Ouais.
il n'avait pas eu beaucoup d'occasions de visionnement et tout ça. Donc, je pense que c'est un joueur qui aurait pu sortir plus haut s'il y avait eu une saison dans la Ligue de l'Ontario.
Mais toutes les équipes sont dans ce bain-là aussi. À un moment donné, je veux dire, tout le monde, il aurait pu monter, il aurait pu être repêché plus tôt. Je veux dire. Puis là, je dis Johnston, mais ajouter Ice Cannon. C'est quoi l'année? Ice Cannon, Oettinger, puis Robertson la même année. Je veux dire, cette équipe-là, le directeur du repêchage, je ne sais pas il fait combien d'argent par année, mérite clairement, mais clairement une augmentation. Là.
J'espère qu'il va avoir sa bague de la Coupe Stanley. Là. C'est quelques mois.
Au premier tour, on a vu le Rupe Hintz des séries, le ailier de puissance. Et Thomas Harley, les gars, sans Miro. Il y a eu quelques erreurs défensives là, de la part de Harley, mais on l'avait vu à la confrontation des quatre nations. Il fait partie de l'élite des défenseurs de la Ligue. Puis son temps de jeu moyen, c'est 28 minutes au premier tour contre l'Avalanche. Donc, Harley a pris les bouchées doubles en l'absence de Miro Heiskanen.
Et Harley, 18e choix du repêchage 2019.
Ouais, l'année de Cole Caulfield, ça.
C'est l'année exactement et qui est sorti Nick, avant lui. Alex Newhook, deux choix plus tôt.
Là, on va pas s'amuser à recréer un repêchage.
Non.
Nick a l'air d'avoir l'intention de se partir une chronique de revisiter repêchages de chaque année.
C'est vendeur, ça. Il y en a qui font ça. C'est super vendeur. Mais mon point est juste le suivant. C'est que si une année sur deux, tu vas te chercher un kingpin en première ronde, t'es bon pour longtemps.
Ouais,
t'es
non, bon pour 18, longtemps. Ça, les stars, c'est juste pour faire du pouce. Le 18, c'est à peu près le rang où le CH doit parler cette saison. C'est techniquement 16-17, les deux choix de premier tour. Il y a quand même moyen de sortir un joyau à cette position-là.
Mais Caulfield était 15e, vois-tu? Donc c'est pas les possibilités qui manquent. J'étais curieux de voir qui les Stars avaient repêché après avoir atteint la finale de la Coupe Stanley en 2020, Maverick Bourque. Donc, je veux dire, lui aussi, lentement mais sûrement, c'est, au final, c'est pas des joueurs qui vont mourir dans la Ligue américaine. Hein. Tous leurs joueurs font le saut vers la Ligue nationale de hockey, peu importe son repêché où. Donc, très impressionnant. Donc, je pense qu'on est tous unanimes, les Stars, surtout si Robertson et Ice Cannon peuvent revenir rapidement. Ça devrait... La porte est ouverte, je pense, pour un duel Golden Knights Stars en finale d'association.
Je vois Guillaume qui bouge sur sa chaise. Je pense qu'il a hâte de retourner faire du Bixi. Donc,
Faire une sieste, peut-être.
Bon.
Le gars, il fait du cardio une fois de temps en temps, puis il est prêt à aller se coucher à faire des siestes.
C'est juste que c'est un réveil à 5 heures ce matin. Là, fait que c'est pour ça que j'arrive à la fin de ma journée. Là.
On salue tout le monde. On salue tout le monde qui ont des enfants, Guillaume, puis qui doivent vivre ça de manière quotidienne.
C'est parce que Guillaume...
Mon corps n'est pas habitué.
T'es dans une chambre d'hôtel, tu vas te commander à souper ou tu vas aller au restaurant.
Non. Je vais rejoindre le bon clip. Là, fait c'est pareil. Faut que je prenne des forces.
Ça, c'est l'équivalent de dire il y a une deuxième journée qui commence pour Guillaume.
Ah, c'est ça. C'est surtout ça mon enjeu. Là, c'est de me dire je vais rejoindre Clipperton, puis on a des plans de regarder le match là, ce soir. Donc, ça pourrait se terminer tard.
Bon, ben parfait. Bon, ben les gars, vos textes, vos séries différentes, ça va être possible de laisser ça sur lnh.com. JF, tu vas au bilan du Canadien demain, bilan d'état-major. Exact. Parler de tout ça. Et ensuite, tu décolles vers l'ouest. L'endroit sera à décider, rendu là, selon ce qui va se passer ce soir. Donc, tout le monde, allez lire ça sur le site de lnh.com. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. À être certain de ne rien rater, abonnez-vous au balado pour rien rater pour notre prochain qui va être, honnêtement, j'ai aucune idée quand on va faire ça. Ça va dépendre du déroulement des diverses séries d'ici là. Un gros merci d'avoir été là, les gars.
Ça fait plaisir.
Et chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.